Le sujet ce matin, alors si vous n'aimez pas lire, sachez qu'on va beaucoup lire. On va prendre beaucoup de versets. On est premier dimanche de l'année. J'aimerais qu'on enracine notre perspective pour l'année 2025 sur la parole de Dieu. Sur des choses simples, mais ô combien parfois difficiles à mettre en pratique et qui sont pourtant le fondement de notre foi. Donc, si tu préfères ta version, je t'invite à sortir ta Bible papier parce que tu vas devoir t'accrocher. Alors, le thème de la prédication ce matin, c'est comment trouver Dieu ? Une question qu'on nous pose souvent, mais comment je peux trouver Dieu ? Et finalement, je me suis rendu compte que ce sujet-là, ce n'est pas seulement un sujet pour ceux qui ne connaissent pas Christ, mais que c'est également un sujet pour les chrétiens. Comment je peux trouver Dieu dans le domaine de mon travail ? Comment trouver Dieu dans ma famille ? Comment trouver Dieu dans ma vie intime avec Dieu ? Comment te trouver, Seigneur ? C'est une question qu'on se pose nous-mêmes face à différentes situations. On cherche Dieu et on est là, mais comment je peux le trouver ? Et finalement, la réponse, elle est tellement simple. La réponse, c'est comment trouver Dieu ? Bah, tout simplement en cherchant. En cherchant. Donc là, je peux fermer mon iPad, la prédication est terminée. Tu as eu la question, tu as eu la réponse. Non, mais la Bible est attachée à ça parce qu'en fait, c'est tellement simple la réponse. Tu veux trouver Dieu, cherche. Et on peut voir que la Bible, premièrement, regorge, la première raison pour laquelle c'est simple, c'est que la Bible regorge d'exemples, depuis le début, depuis la fondation du monde, jusqu'à aujourd'hui, d'hommes et femmes qui ont trouvé Dieu, mais tout simplement qui ont pris le temps de le chercher. Et on peut voir énormément d'hommes et de femmes de Dieu qui ont pris ce temps-là, qui ont mis du temps à part et qui ont dit « je vais faire de ma vie eh bien, tout simplement une quête pour trouver mon Créateur ». Et la deuxième chose, c'est que trouver Dieu, c'est une promesse biblique fermement attachée à... trouver Dieu, c'est une promesse biblique fermement attachée au fait de le chercher, tout simplement. Le fait de chercher, la Bible nous promet que si tu cherches, tu trouves. Donc, si c'est une promesse, il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas trouver Dieu. Voilà pourquoi ça rend la chose aussi simple que ça. Bibliquement, on a des exemples. Et ensuite, les paroles, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, même celle de Jésus, nous dit, eh bien, il faut que pour me trouver, il faut que tu me cherches. Alors, on va commencer dans l'Ancien Testament et on va voir que il s'est passé pas mal de choses. Donc, je vais prendre juste un petit exemple. On va tout de suite lire 2 Chroniques 15, versets 1 à 2. L'Esprit de Dieu reposa sur Azaria, fils d'Oded, et celui-ci alla à la rencontre d'Aza et lui dit « Écoutez-moi, Aza, ainsi que tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » On est dans une période pour le peuple de Dieu, une période de troubles, une période de conflits, une période de guerre avec les peuples environnants. Et un roi arrive, Azia, et puis lui, il se dit « il y a un problème, peut-être qu'on fait les choses de la mauvaise manière ». Et là, il y aura tout simplement cette parole qui va lui être donnée par le prophète qui va lui dire, eh bien, qui va lui rappeler une chose simple. Je vais te rappeler une chose simple, roi de Juda. C'est le roi de Juda à ce moment-là. C'est, eh bien, si tu me cherches, tu vas me trouver. Je lui dis, si tu me cherches réellement, tu vas me trouver. Et de là, Azia, il va chercher à avoir une attitude juste devant Dieu. Et il connaît un minimum... les règles, il connaît un minimum la Torah, il sait ce qu'il y a à faire, il sait ce qui est juste, et il va commencer à remettre de l'ordre dans les pratiques au niveau du peuple de Dieu qui s'est éloigné de Dieu et qui a commencé à adorer toutes sortes de divinités, toutes sortes d'idoles, et il va commencer à se débarrasser de tout ça. Il va dire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va abattre les autels à Astarté, on va abattre toutes ces choses-là, et je vais restaurer le culte à l'Éternel. Voilà ce que va faire ce roi. Et on peut lire plus tard, dans le même chapitre, au verset 12. Donc, le peuple va voir que Azia, il se passe quelque chose avec lui. Et tout le monde va se rassembler. Les tribus sont un peu dispersées, ils vont se rassembler autour de lui. Et voilà ce qui est écrit. Ils s'engagèrent, donc le peuple entier, par une alliance à s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, de tout leur cœur et de tout leur être. cette alliance stipulait que quiconque ne s'attacherait pas à l'Éternel, le Dieu d'Israël, serait mis à mort, quelle que soit sa condition sociale, homme ou femme. Ils prêtèrent serment à l'Éternel d'une voix forte, au milieu des acclamations, au son des trompettes et des cors. Tout le royaume de Juda fut dans la joie à cause de ce serment, car ses habitants avaient prêté ce serment de tout leur cœur. C'était de plein gré qu'ils avaient décidé de s'attacher à l'Éternel, et par conséquent, il intervient en leur faveur et leur assura paix sur toutes leurs frontières. Incroyable. Dieu leur rappelle, l'Éternel leur rappelle une chose simple. Cherche-moi. Parce que si tu me cherches, tes actions vont être différentes et à ce moment-là, je vais pouvoir intervenir pour toi. Et vous voyez qu'ils ont remis de l'ordre, ils ont restauré le culte à l'Éternel. Et là, qu'est-ce qui est écrit ? Il intervient en leur faveur et assurera la paix sur toutes les frontières. Retiens bien qu'il est bien écrit, le chercher de leur plein gré, d'un cœur, voilà, pleinement disposé, de tout leur cœur. Ils prêtèrent un serment. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé, après, donc à minuit 20, le premier de l'an, je vous ai parlé du fait de faire des vœux à l'Éternel. Et à l'époque, on faisait déjà des vœux à l'Éternel. On disait, voilà, je m'engage envers toi pleinement. C'est pas juste, je viens à l'église, je profite un peu, et puis je fais ma vie. C'est, je m'engage pleinement avec toi. C'est mon vœu, c'est d'être attaché fermement à toi pour que je puisse vivre ce que j'ai à vivre avec toi, tout simplement. Et donc la question c'était, que je vous ai posée, c'est quel est ton vœu envers Dieu ? Pas ce que tu aimerais pour toi cette année. Souvent, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Une plus belle voiture, une plus grande maison, un peu plus de sous, une belle famille, la joie. Et la santé, c'est important la santé. Ah bah oui, c'est important la santé. Mais quel est mon vœu envers Dieu cette année ? Comment je vais m'engager envers Dieu pour pouvoir voir les grandes choses ? J'entends souvent, on veut plus dans le milieu chrétien, on veut plus. Une fois, j'ai fait une réunion avec l'équipe de louanges, ce qui est revenu, c'est on veut plus. Vous allez faire une réunion avec les prédicateurs, on veut plus. On veut tous plus. Mais alors, quel est mon niveau d'engagement envers mon Créateur ? C'est ça la bonne question. Comment est-ce que je vais me mettre à le chercher ? Et on voit que là, Dieu les a libérés. Et tout simplement parce qu'ils se sont attachés à ce que Dieu leur avait déjà dit dans la Torah, dans les règles à suivre, dans les commandements, et qu'on peut lire en Deutéronome 6, versets 5 à 6, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Et ça avait été délaissé au profit des idoles. Alors comment Dieu pouvait demeurer auprès d'eux ? On revient au commandement que Dieu a donné. Alors le résultat, c'est la paix. Maintenant, on va voir un petit peu dans le Nouveau Testament. Matthieu 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Cherchez et vous trouverez. Quelle promesse ! Cherche et tu trouveras. Si tu ne trouves pas, c'est qu'il y a un problème. Ici, si vous allez dans la profondeur du mot chercher, le mot chercher, ça a vraiment une résonance de chercher avec la ferme intention de trouver. Moi, je suis le roi pour chercher sans vraiment vouloir trouver. Vous pouvez poser la question à ma femme. « Chérie, elles sont où mes clés ?» Mais je n'ai pas encore commencé à chercher que je demande la solution. Vous comprenez ? Il y a des âmes avec moi ici ? On est tous pareils ou vous êtes un peu plus... Voilà, il n'y a personne qui se dévoile là. Vous n'êtes pas cool, vous blessez tout seul. Ouais, ben voilà. Oh. Je vous connais. Hein. Comme dirait Thierry, on est tous fait de la même pâte. Il y en a des mieux, il y en a des meilleurs. Mais... Vous voyez, cherchez avec la ferme intention de trouver. Ensuite, Hébreux va plus loin. Ok, il y a une promesse qui est attachée au fait de chercher. Mais Hébreux va aller plus loin. Juste avant la liste des héros de la foi, vous le connaissez ce passage. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui s'approche de lui, croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est pas seulement « je vais chercher, je vais trouver ». C'est non seulement « je vais trouver », mais au bout du compte, il y aura une récompense parce que j'ai pris le temps de chercher. Incroyable. Une promesse tellement simple. Cherche, tu trouveras. Cherche et tu seras récompensé. Souvent, on vient vers nous, monsieur le pasteur, il faut prier parce que j'ai tel problème, tel problème, tel problème. Ok, on peut prier. Mais est-ce que tu as cherché avant? Parce que ma prière sera pas très efficace si toi-même, il n'y a pas une démarche personnelle. Je suis responsable de ma recherche. Personne ne peut chercher à ta place. C'est pas possible. Il faut déjà l'enlever de ta tête. Parce que c'est une promesse qui est faite pour toi et pour moi personnellement. Dans cette intimité avec Dieu. Alors, on a souligné que le fait de trouver Dieu est simple depuis le commencement. Finalement, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est quelque chose qui a travaillé l'homme, trouvé Dieu. Mais la réalité, c'est que depuis le commencement, le désir profond de Dieu, c'est qu'on puisse le trouver. Alors, lui-même ne va pas mettre des blocages, des difficultés, pour que tu puisses venir à sa rencontre. Depuis le commencement, Dieu lui-même allait dans l'Éden parler à Adam et Ève. Lui-même se déplaçait pour dire comment vous allez aujourd'hui, ça se passe bien. Dieu a toujours cherché à avoir une relation qui est vraiment intime avec nous, qu'on puisse venir en toute simplicité à sa rencontre. Mais la vérité, c'est que je constate que dans mon cœur, c'est parfois difficile de trouver Dieu. Et je constate, non seulement ça chez les chrétiens, mais chez les non-chrétiens, ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, c'est difficile, c'est parfois tortueux. Et je me suis dit, mais pourquoi les chrétiens ont tant de mal à trouver Dieu? Ben, tout simplement parce qu'on ne t'a peut-être pas appris à chercher correctement. Et que tu es comme moi. Quand ma femme, elle me dit, écoute, il faudrait que tu trouves ceci, cela. Au moment où elle me parle, je suis dans mes pensées. Ok, chérie. Parce que moi, j'ai appris qu'il faut toujours dire oui. Oui, chef. Non, c'est juste. Il y a juste Thierry qui a réussi, après 40 ans de mariage, à bouleverser l'ordre des choses. Mais oui, il faut chercher, j'entends à moitié, et puis je me retrouve, tu vois, à chercher partout dans la maison, sauf où je dois chercher. 5 minutes passent, et là, ma femme, elle me regarde, elle me dit, mais t'es en train de errer, et tu sais même plus pourquoi ce que tu fais. Je dis, non, c'est vrai, tu vois, je suis dans mes pensées, et j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais rappelle-moi un petit peu. Ah, ok, c'est vrai, faut que j'aille dans la buanderie, je me retrouve dans la salle de bain. Tu vois. Ça, c'est moi. Je suis dans mes pensées. C'est une recherche qui est... Voilà, faut chercher, parce qu'on m'a demandé, mais j'étais préoccupé par autre chose. J'étais dans mes pensées. Je suis en train de ranger le lave-vaisselle, par exemple, et vous voyez, dans des tâches sommaires comme ça, moi, je suis le plus dangereux, c'est dans les tâches sommaires, où ça ne me demande pas beaucoup de concentration. Là où j'ai besoin d'énormément de concentration, où c'est compliqué, ah, je vais être focus. Mais quand c'est des tâches un peu, voilà, laver le range, vous allez retrouver un bol propre dans le frigo. Vous allez retrouver à manger dans... Ça, c'est moi. Une fois, j'ai retrouvé mon portefeuille au-dessus du frigo, le truc improbable. Vous voyez, c'est... Je pense et puis j'oublie. Et bien, parfois, on est un peu comme ça avec Dieu. On passe du temps dans la prière, on passe du temps dans le jeûne, on passe du temps partout. Mais en fait, c'est comme si on tournait en rond, on ne touche jamais Dieu. Alors, le problème, finalement, ce n'est pas dans le fait de trouver. Parce que trouver, c'est lié à une promesse de Dieu. Et tout ce qui est attaché, lié à une promesse de Dieu, est infaillible. Dieu a dit, si tu cherches, tu trouves. Donc, si tu ne trouves pas, le problème, ce n'est pas dans le fait de trouver. Le problème, il n'est pas chez Dieu. La promesse étant liée à Dieu lui-même qui est parfait et infaillible. La promesse, c'est le vrai problème, c'est dans le fait de chercher. Chercher, ça dépend de toi. C'est lié à l'homme qui est faillible. C'est là que tout se joue. C'est dans notre manière, notre démarche, notre méthode de recherche. On cherche parfois mal, de manière inefficace, et ça ne produit aucun fruit. Alors Jésus, il a souligné ça dans Matthieu 13, versets 13 à 15. Et il a souvent remis les choses en place par rapport à tous ceux qui le suivaient, par rapport aux religieux de l'époque, par rapport aux érudits. Et il dit, et même aux personnes qui le suivaient, les foules, il dira, quand il parle à ses... Donc là, c'est Jésus qui parle à ses disciples, vous lirez le contexte. C'est pourquoi je leur parle en parabole. En fait, il parle en parabole et les disciples ils lui disent, mais pourquoi tu parles en parabole? Et Jésus va répondre. Il dit, parce qu'en voyant, il ne voit pas. Ça, c'est moi. Chanel a deux yeux, moi j'ai deux yeux, on est dans la même pièce, elle voit, je ne vois pas. Le même, comment on appelle ça, les mêmes critères sont là, réunis, mais l'un voit, l'autre ne voit pas. Eh bien, c'est comme ça avec nous, l'un voit, l'autre ne voit pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Et en effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est incroyable ça. Jésus, le Messie, est là. Il accomplit la parole de Dieu, il accomplit les Écritures, et pourtant, alors qu'il est là, on ne le voit pas, alors qu'il fait des choses, on ne comprend pas, on n'entend pas. Voilà pourquoi Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je ne vais pas te convaincre, entends ma parole aura du fruit chez toi ou non, mais moi, mais je ne peux pas faire plus, je suis là, Jésus il était là. Il ne peut pas faire plus. Il donne sa vie pour toi et pour moi, il ne peut pas faire plus. Le problème ne vient pas de Dieu. Ça vient de mon cœur. Il est écrit que leur cœur s'endurcisse. Le cœur est endurci. Le cœur ne veut pas entendre. Il y a des têtus ici. Moi, je suis parfois têtu. Il n'y a personne qui lève la main. Mais soutenez-moi un petit peu. On est tous un peu têtus parfois. On a une idée et on a une pensée qui devient un canal. Tu ne vois plus que ça. Tu ne vois plus large. On est tous pareils. Il dit qu'ils ne se convertissent. Qu'ils ne se convertissent, c'est changer d'attitude, changer de direction. Le problème, c'est que changer d'attitude, ça change tes habitudes. Et parfois, tes habitudes sont plus importantes que ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tes habitudes sont ton Dieu. Ah, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça, il faut que je sois à l'aise, il faut que machin, il faut que ceci, il faut que cela. Et on a tous nos habitudes. Et quand on te sort de tes habitudes, tu ne sais plus, tu es perdu. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Le problème, c'est notre cœur. Tout se joue depuis le commencement, je vous l'ai lu dans l'Ancien Testament, dans le cœur. Déjà, le peuple de Dieu endurcissait son cœur, se détournait des voies de Dieu. Et bien, pour nous, c'est la même chose. Ici, ça ne dépend pas d'une alliance, de l'Ancien Testament, de la loi, de la Torah, de Jésus mort, ressuscité. Depuis le commencement, Jésus, Dieu veut qu'on le trouve. Et il veut qu'on le trouve dans la bonne attitude de cœur. Ça ne dépend pas des critères de salut, entre guillemets. Dieu veut que tu le trouves, et il veut que tu le trouves grâce à ton cœur. Pas au travers des rituels, de tout ce que tu as pu mettre en place, mais avec un état de cœur qui l'agrée. Qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. C'est la chose la plus importante, c'est donc de chercher avec la bonne attitude de cœur. Comme je vous l'ai dit, nous sommes responsables de notre cœur. La Bible dira aussi « garde ton cœur » plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu peux tout comprendre des évangiles, tu peux tout comprendre de la parole de Dieu, mais ton cœur est en marge, il ne comprend pas, il ne veut pas s'attacher à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aucune vie va arriver en toi. Sauf que la foi chrétienne est une foi vivante. Si c'est mort, ce n'est pas la foi chrétienne, c'est la religion. Ça marche? Alors on va définir maintenant, à nouveau, selon la parole, qu'est-ce qu'une mauvaise attitude de cœur? Parce que chacun peut avoir sa petite définition personnelle. Il y en a un pour lui faire la fête jusqu'à pas d'heure et être saoul comme un coin, ça lui va. D'accord? Et il se sent bien devant Dieu. Et l'autre, non. Il y en a un, juste le fait de pas s'habiller décemment, il n'est déjà pas bien devant Dieu. Oui, on a tous un peu nos... Mais on va remettre les choses en fonction de ce que dit la Bible. Ésaïe 29, 13. « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Les traditions humaines. Ah, il faut que le 25 à Noël, c'est le soir de Jésus, qui est mon petit machin, mon petit truc, ma petite croix, mon machin. Dieu n'est pas là-dedans. C'est bien, ça te fait peut-être du bien, mais la tradition humaine, il n'y a pas Dieu dedans, excuse-moi de te le dire. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mauvais, mais ce n'est pas là où tu vas trouver Dieu. Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il y a des commerciaux ici? Un bon commercial, il sait qu'au plus il multiplie les paroles, au plus il y a de chances de vendre. C'est juste ou pas? Ah, il y a des arguments, il y a des machins, il y a des trucs. Ah ben, Dieu, tu ne vas pas le convaincre, tu vois. Tu peux multiplier les belles prières, balancer tous les versets que tu connais, être dans la proclamation qui te stimule. Excuse-moi, mais Jésus a dit, c'est pas à force de parole que tu vas le trouver. Une prière, une recherche mécanique et sans réelle foi n'a aucune valeur spirituelle. Moi, le soir, je prie avec mes enfants. Quand ils commencent à faire une prière, je dis, bon, ça, c'est une récitation, je m'en vais. Ça ne m'intéresse pas. Tu es en train de faire une récitation pour me faire plaisir, pour te faire plaisir, parce que c'est ton habitude. Si tu pries vraiment avec ton cœur, ça m'intéresse. Si tu récites, je m'en vais. C'est comme ça que je parle à mes enfants parce que c'est la réalité. Une récitation ne m'intéresse pas. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Tes récitations, tes proclamations ne l'intéressent pas. Ce qu'il cherche dans la prière, c'est que réellement, il puisse voir ton cœur au travers des mots qui sortent de ta bouche et que ce soit sincère. Luc, chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alors ici, on est dans une recherche apparente de Dieu. Seigneur, Seigneur, vous voyez devant tout le monde, Seigneur, Seigneur. Il faut que ça se voit. Eh bien, une recherche apparente de Dieu est vaine si elle n'est pas accompagnée à la soumission à sa volonté. Seigneur, Seigneur, mais tu n'es pas prêt à te soumettre à sa volonté, bah, baisse la main, crie pas Seigneur, Seigneur, c'est des paroles inutiles et vaines. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Cette demande ou cette recherche de Dieu n'est pas sincère. Elle est motivée par des désirs égoïstes. Seigneur, j'ai besoin d'un meilleur travail parce que tu vois, machin, il faut que ça aille mieux. C'est des intentions louables, hein. Mais Dieu n'est pas au centre, tu vois. Tu n'es pas en train de prier dans une volonté de plaire à Dieu. Seigneur, peu importe où tu m'emmèneras à travailler, peu importe les sacrifices que je devrais faire, là où je serai un témoignage. Ça, c'est une prière qui va changer les choses. Réclamer 500 euros de plus par mois, Dieu peut le faire. C'est selon sa souveraineté. Et il sait ce que tu as besoin. Mais de dire, Seigneur, je suis à ta disposition là où tu m'emmèneras à travailler. Là, c'est différent. Là, avec un cœur sincère, je pense que les choses vont bouger. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu comprends la différence? Dans les versets qu'on a lus, eh bien, on voit vraiment, j'en ai pris de l'ancien, j'en ai pris du nouveau, pour que vous compreniez que c'est quelque chose qui a traversé le temps, que Dieu a toujours cherché le cœur de l'homme. Il n'a pas cherché ses rites, ses pratiques, il a cherché le cœur de l'homme. Et effectivement, les rites et les pratiques ont révélé parfois les choses, les critères étaient différents, mais Dieu cherchait toujours le cœur de l'homme. Et dans ces versets, on peut voir quoi? On peut voir que c'est une recherche superficielle ou motivée par des désirs égoïstes, matériels, religieux, sans un cœur sincère. La Bible nous enseigne que pour trouver Dieu, il faut une détermination authentique et sincère. Être déterminé à trouver Dieu, en étant authentique, on ne cache rien à Dieu, on est vrai, on est sincère devant lui. Et en même temps, eh bien, on a un cœur qui est pleinement tourné vers lui. Une recherche tiède, juste pour goûter. Tu vois, je vais goûter, peut-être que Dieu sera dans cette situation, mais je me garde une réserve. Parce que si Dieu n'est pas là, je ferai à ma manière. Ça, c'est une recherche tiède. Je vais essayer, mais j'ai une réserve. Je garde une petite garantie. une recherche intéressée ou hypocrite est vaine. Jésus a été très clair là-dessus. Alors la solution, Jacques 4, versets 7 à 8. Je vous avais dit qu'on allait beaucoup lire. Hein. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira l'un de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Alors dans nos milieux, il y a quelque chose qui est souvent répété et qui est à 100% vrai. Écoute bien ce que je vais dire. Nous sommes enfants de Dieu! Ah oui, amen, alléluia! Mais tu vois, des fois, derrière cette expression, on cache un peu le fait qu'on laisse des petits trucs derrière. Parce que je suis enfant de Dieu, tout est accepté, tout est possible. Ça, c'est un petit peu... Parfois, on peut avoir ce cœur-là. Je te mens pas, je l'ai déjà eu. Si tu l'as eu, moi aussi, hein. Je suis enfant de Dieu, du coup j'oublie deux, trois petits trucs. Je me présente avec cette belle déclaration, je suis enfant de Dieu, je remets mon vêtement. C'est super, c'est génial. Effectivement, il faut parler à son âme. Ok, c'est une vérité. Mais parfois, eh bien, il ne faut pas oublier que nous sommes des pécheurs. N'oublie pas ta condition de pécheur et que tu es un pécheur racheté. Et que le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te ramener à ta condition de pécheur. C'est son objectif tout le temps, toute ta vie, chrétien. Il te ramène à ta condition de pécheur. Et t'es ceci, et t'es cela, et tu as des failles, tu tombes dans certains travers. Et au lieu de régler le problème, ah, t'es enfant de Dieu. C'est pas ça hein, qui est écrit. Hein. Il est écrit, quand t'es dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Approchez-vous de Dieu. Avec quoi? Ça sous-entend une humilité, Seigneur, c'était pas parfait cette semaine. Mais je reviens vers toi parce que je sais que tu es la source de ma vie. Je veux protéger mon cœur. Dieu s'approche alors de toi dans la prière ou dans la louange ou dans ton culte personnel ou alors quand on est ensemble, peu importe les circonstances. À nouveau, il n'y a pas de rite. Nettoyez vos mains. Ça veut dire quoi, nettoyer vos mains? Ce que tu as fait, l'action que tu as portée qui n'a pas plu à Dieu, comme Asia, ils avaient élevé des autels. Ce que vous avez fait, détruis ce que tu as fait. T'as été sur un site internet qui a entaché tes yeux, qui fait que tu tombes dans l'impureté. Va sur ton ordinateur, mets des blocages, fais quelque chose. Enlève les autels qui ne sont pas de Dieu. Et restaure le culte du Seigneur dans ta vie. Et là, nettoie tes mains, des choses concrètes, une foi active. T'es attiré, t'as pris des décisions au niveau de ton boulot qui ont fait que ceci, cela. Tu reviens sur ce que tu as pu faire. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon, mais je vais faire une action qui annule tout ça. Je ne veux pas élever des autels dans ma vie qui m'éloignent de toi. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur. À ce moment-là, à nouveau, le pardon de Dieu arrive, la repentance arrive. Et à ce moment-là, tu te sens vraiment enfant de Dieu. Parce que ton Père céleste qui est dans les cieux, il te pardonne, te dit, viens là, c'est bon, allez, on avance. Et Satan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il perd tout pouvoir sur toi et il recule parce que le sang de Jésus te couvre. Et là, il voit, ah, il s'est revêtu du Christ. Il s'est revêtu du Christ. Pas de ses désirs égoïstes, personnels, ses envies, ses désirs, ses plaisirs. Et là, tu es en train de mettre le squatteur de ta vie dehors. Ça suffit. Est-ce que tu me suis? Je te sens dans la réflexion, là. Réfléchis pas trop, hein. Alors maintenant, on va prendre, j'aimerais vraiment appuyer pour cette année 2025, cette pensée de chercher correctement Dieu. Parce qu'avant même de proclamer des choses, avant même de réclamer des choses, il faut que je sache profondément comment trouver Dieu, comment le chercher correctement pour que ça ait de l'efficacité. Et après, on pourra proclamer tout ce qu'on veut. Mais il faut que déjà mon cœur soit disposé correctement. Alors on va prendre des exemples de personnes ayant cherché, mais n'ayant pas trouvé. Il y a plein d'exemples dans la Bible, j'en ai pris deux. Alors j'ai pris l'exemple de Saül, on ne va pas lire, l'histoire est longue, mais vous connaissez le roi Saül, vous connaissez toute cette histoire, hein. David lui a succédé, et la vie de Saül, à un moment donné, ça déraille. Pourtant au départ, Dieu était avec lui, une succession de décisions, une succession d'actes qui vont faire que la présence de Dieu, eh bien, petit à petit, l'action de Dieu va s'éloigner de lui. Et finalement, le problème de Saül, si vous regardez vraiment les Écritures, c'est qu'il a cherché à plaire aux hommes. À un moment donné, il est tombé dans le biais de plutôt plaire aux hommes qu'à Dieu. Et ses décisions ont été prises pour plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Il est tombé dans la désobéissance et il a commencé à chercher Dieu en consultant une voyante. Ah, ça, ça n'a pas plu à Dieu, je vous le dis. Chercher des choses mystiques alors que tu as toute la connaissance, alors que ah, ça, ça n'a pas plu à Dieu. Qu'est-ce qu'il a ? Il a perdu. Sa royauté lui a été retirée. Il a fini dans la défaite et dans la mort. Triste fin. Ensuite, alors celui-là, on le connaît beaucoup. On le connaît très bien. Judas Iscariot. Vous le connaissez, celui-là. Alors lui, c'est le top. C'est le top de l'échec. Vous allez me dire, oui, mais c'est le plan. Non, regardez l'homme. Le top de l'échec de tout ce qu'il ne faut pas faire. Lui, il a suivi Jésus physiquement. Physiquement. Il l'a vu, il était avec lui. Il a entendu ses enseignements, il a marché, il a vu, oh, voilà, tout le verset qu'on a vu. Tu entends, mais tu ne comprends pas, ton cœur est endurci. Mais son cœur était attaché à l'argent. Son cœur était attaché à l'argent plutôt qu'à Dieu. Nous sommes dans une société matérialiste, chrétien, chrétienne, enfant de Dieu. Faites attention, notre cœur peut être attaché davantage à l'argent qu'à Dieu lui-même. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre soin de tes enfants, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas construire ton patrimoine, ça ne veut pas dire tout ce que tu veux, que tu ne dois pas penser à ta retraite. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je dis, c'est que ton cœur doit être davantage attaché à Dieu qu'à tes possessions, qu'à ce que tu pourrais acquérir. Ah, ça c'est dur. C'est très dur. Ce serait un autre sujet, mais bon. Judas n'a pas cherché à connaître réellement le Seigneur. Moi, j'étais enfant de chrétien, comme mes enfants là. Souvent, je dis, vous, les enfants de chrétiens, je vous tiens à l'œil. Pourquoi ? Parce que nous, on est là, on baigne dans la présence de Dieu. On a une tendance à vivre les choses tranquillement, sereinement. Mais à un moment donné, Dieu va venir nous chercher, il va dire, est-ce que vraiment tu t'attaches à moi ? Est-ce que vraiment tu me cherches toi personnellement, plus au travers de la foi de tes parents ? Et c'est le défi pour tous les enfants, les parents chrétiens. C'est notre défi de dire à un moment donné à nos enfants, c'est ton choix, c'est ta décision. Il n'y a personne qui te force, tu as vu, tu as entendu, tu as compris. Qu'est-ce que toi tu veux? Comment veux-tu servir le Seigneur? Ça marche? Et moi j'ai été comme ça, je disais toujours, je ne suis pas pasteur parce que j'ai été enfant de pasteur, mais alors loin de là, il y a des gens qui peuvent penser ça. Je suis pasteur parce qu'il y a eu un appel, parce que j'ai reçu, parce que j'ai trouvé Dieu, parce que je l'ai cherché. Et je suis tombé à genoux, il y avait la puissance, j'ai demandé pardon à Dieu, je suis passé par une repentance, par toutes ces étapes-là. D'accord ? Donc il ne faut jamais mettre une étiquette sur les enfants à cause de leurs parents, parce qu'ils vont faire leur expérience personnelle. Alors maintenant, on va passer à nos exemples bibliques positifs. Quand même, on va repartir encouragé, on va repartir motivé pour 2025. Alors, j'ai sélectionné vraiment deux exemples. Un exemple très simple. Ça va être les apôtres dans le Nouveau Testament. Jésus est parti, mais il leur a donné une recommandation. Allez à Jérusalem, attendez. Ils ont obéi, ils ont attendu un certain temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la promesse, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ce n'est pas le sujet de la prédication, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient perdus. Jésus s'est révélé de nouveau à eux. Allez, attendez, vous allez voir, il va se passer quelque chose. Dans l'obéissance, dans la patience, dans la persévérance ensemble, dans l'unité. Eh bien, réellement, ils ont pu connaître et vivre ce que Jésus avait promis directement pour eux. OK ? Mais il y a un exemple, c'est Anne. Qui connaît Anne ici ? Quelle histoire, Anne ! Moi, à chaque fois que je lis l'histoire de Anne, elle est impressionnante. Vous savez que Anne, elle avait le cœur brisé. Elle avait le cœur brisé. Pourquoi ? Parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Elle était dans son infertilité, elle était moquée, elle était un peu jugée, il se passait des choses autour d'elle, il y avait une pression. Et Anne, elle est allée dans le temple, elle s'est mise à genoux et elle a commencé à déverser son cœur. Vous voyez, elle est arrivée triste, elle est arrivée lourde. Et vous irez lire dans 1 Samuel, les premiers chapitres. Vous verrez l'histoire de Anne. Elle arrive là, elle arrive devant le prophète, Élie, et lui, il la regarde comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de pleurer. Elle gémit sur le sol. Vous voyez, elle était, moi je l'imagine, elle était comme ça. Et puis la Bible nous dit qu'elle murmurait, elle murmurait, elle était. Vous aviez l'impression qu'elle se lamentait. Et lui, il va croire, l'homme de Dieu, celui qui déploie le feu. Il la regarde, il ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de se passer, c'est entre Anne et l'Éternel. C'est personnel. L'homme de Dieu, il ne comprend même pas ce qui se passe là. Et lui, qu'est-ce qu'il va penser? Parce que c'est un humain comme nous. Il est fait de la même pâte que nous. Il va dire, elle est ivre. Elle est complètement sous. Elle est en train de cuver son vin. Il va lui dire, mais va cuver ton vin ailleurs. On est dans la maison de Dieu ici, c'est indécent. Et là, elle va lui dire, non. Et elle lui explique. Et là, il lui dit, lève-toi. Dieu va te bénir. Incroyable. Magnifique. Mais vous voyez l'attitude de cœur de Anne. Elle était brisée émotionnellement, complètement abattue dans son âme. Est-ce que tu as déjà été abattu comme ça dans ton âme? Parce qu'il t'arrive quelque chose et tu ne vois pas la solution, tu es abattu. Est-ce qu'elle a commencé à se lamenter, dire « De toute façon, Dieu, c'est de ta faute, et de toute manière, les chrétiens, ils ne m'entourent pas, c'est eux qui me jugent, et tu sais, le pasteur, il ne m'a pas fait un sourire alors que j'étais triste. » Vous voyez, on peut être amer comme ça. Eh bien, Anne, elle n'a pas choisi l'amertume. Elle a choisi de déposer. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être vraiment touché profondément. Dieu ne te demande pas d'être le super-héros tout le temps. Tu vis des choses. Mais ce qu'il te demande, c'est de lui déposer humblement devant lui, sans l'accuser. Et c'est ce que Anne, elle a fait. Elle n'a pas accusé Dieu pour ses problèmes. Mais elle a dit, Dieu, souviens-toi de moi. Le verset clé de Anne, c'est « Souviens-toi de moi ». Souviens-toi de moi. Tu vois mon cœur. Elle est restée humble dans la tristesse. Et Dieu l'a bénie. Et de ses entrailles est sorti Samuel. Et elle avait fait un vœu à l'Éternel. Elle avait dit, si vraiment il se passe quelque chose, eh ben cet enfant, je te le consacrerai. Ce sera un enfant qui va te servir. Ce sera un enfant qui sera à ta disposition. Samuel est arrivé. Il est devenu un grand prophète qui a fait de grandes choses. Et elle a été bénie. Elle a pu observer ça. C'est pas merveilleux? Alors, ce qu'on retient d'Anne, c'est l'humilité dans sa demande, de venir profondément et sincèrement au pied de Dieu. Même dans ses pleurs, même dans sa tristesse, dans son déchirement, elle n'a pas accusé les autres, elle n'a pas mis la faute sur le destin, sur les gens qui l'entouraient, mais elle a dit, Dieu, toi, je veux mettre ma confiance en toi. Et je te promets que si tu me bénis, il se passera ça et je ferai. Et elle a été au bout de sa démarche. Amen. Amen. Alors, le résumé des deux attitudes de cœur et leur impact. La mauvaise attitude de cœur, c'est l'orgueil, l'incrédulité, l'hypocrisie, le compromis, l'attachement aux choses de ce monde. Tu vois, c'est comme si tu cherches Dieu, mais dans ton cœur, eh ben c'est comme si, comme ça, tu vois. Tu te rapproches de lui et tu gardes toujours quelque chose enfoui en toi. Et à ce moment-là, le chrétien doit se poser cette question, est-ce que je cherche Dieu pour qui il est ou pour ce que je désire, ce que je veux? Si la réponse à cette question, tu sais y répondre et te dire, bah, finalement, je suis sincère avec moi-même et en ce moment, je suis en train de chercher Dieu pour avoir ce que je veux, eh bien, lave tes mains, lave ton cœur, remets-toi devant le Seigneur, change ton état d'esprit et tu verras, Dieu va te bénir. La bonne attitude de cœur, c'est la foi. C'est premièrement croire que Dieu peut faire quelque chose. L'essence même de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. La foi, l'humilité. Comme Anne, je m'humilie, Seigneur, parce que je sais que tu es souverain, que tu es le Créateur, que tu es au-dessus de tout. La repentance, je te demande pardon, Seigneur, pour mes faiblesses, pour les mauvaises pensées. J'ai accueilli des mauvaises pensées dans mon cœur, j'ai commencé à y croire, et le fait d'y croire, ça a amené de l'amertume, ça a amené en moi une déception. Et ça, ce n'est pas ta volonté. Ça entache mon cœur et ça m'empêche de te trouver. C'est un blocage. Eh bien, tu peux encore faire demi-tour au travers de la repentance. La persévérance. Anne, elle n'a pas prié deux minutes. Elle n'a pas prié deux minutes. On dit qu'un long moment s'est passé. Et il a regardé comme ça, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que dans la prière, ton cœur change. Quand tu exposes les choses à Dieu, quand réellement tu es sincère, tu vois, c'est comme quand tu es sincère avec ton mari ou ton épouse ou quelqu'un de vraiment proche, tu vois, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de manière de parler, il n'y a pas de chipotage, c'est juste ton cœur. Et au moment où tu exprimes les choses, eh bien, tu sens que ton cœur est en train de changer. Qu'il y a quelque chose qui se passe au fond de toi. C'est un mécanisme incroyable. Avec Dieu, c'est la même chose. Il faut ouvrir ta bouche. Il faut lui exposer ta tristesse. Si tu dis, non, je ne peux pas être triste. Si, tu peux être triste. Mais expose-la avec humilité devant Dieu. Parle-lui, mets des mots. Et tu vas voir que tu vas te rendre compte que quand tu parles à Dieu, il y a les pensées de Dieu qui rentrent en toi et qui changent ton état de cœur. Et tu ressors de là transformé. Le désir sincère de la présence de Dieu. C'est, je ne viens pas juste là non plus pour me vider, le Dieu poubelle, je balance ma frustration, je balance mes problèmes, mais c'est, je viens à ta rencontre. Que tu sois le matin, dans ta douche, dans ton temps de prière, sur ton canapé, à l'église, dans un temps de prière, peu importe, en commun ou alors personnel, c'est dire, Seigneur, je sais que je viens dans ta présence et je crois que tu vas me parler. Dimanche, je ne sais plus c'est qui, pas dimanche, mais le jour du Nouvel An, il y a quelqu'un qui m'a dit, lorsque j'ai parlé des vœux, qui m'a dit, tu vois, je suis venu, et vraiment, j'avais le désir, je voyais quelqu'un qui était en train de noter comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en train de noter parce que je suis venu avec le désir que Dieu me parle, et Dieu m'a parlé, il faut que je note. Ben, j'étais heureux, parce que la personne, c'est pas ce qui a été prêché, c'est le désir de la personne que Dieu lui parle. Et ensuite, Dieu, c'est lui l'architecte, c'est lui le chef d'orchestre, il fait ce qu'il a à faire. Dernière promesse, et ensuite on va prendre la Sainte Cène. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En cette année 2025, il faut qu'on parte avec la ferme intention de mettre au clair notre cœur devant Dieu dans chaque aspect de notre vie. Et là, je peux t'assurer que tu vas voir plus. On veut plus, on cherche l'onction, on cherche la prière efficace, on cherche la foi. Je lui dis, laisse tout ça. Où est ton cœur? Ensuite, tu vas chercher les choses, les outils que je te donne pour accomplir ma volonté. Mais avant de prendre les outils, il faut l'état de cœur. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui vient au boulot, il traîne les pieds. Puis vous lui donnez les outils, il se blesse, il fait n'importe quoi, il n'est pas concentré, ça ne va pas. Avec Dieu, c'est la même chose. C'est je viens déterminer un bon état d'esprit, un bon état de cœur. Je m'attends à Dieu, je m'attends à sa présence. Et ensuite, Dieu, il te donne les outils. Là, il va dire, tu vois, dans ton boulot, tu as besoin de la patience. Je vais te remplir de patience. Tu as besoin de l'amour, tu as besoin de la bonté. Et maintenant, tu vois, il y a des choses spirituelles autour de toi. Je veux t'utiliser dans l'œuvre de Dieu. Je vais te donner les dons, je vais te donner ceci. Mais l'état de cœur, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Amen. T'es d'accord ou tu veux fuir? Alors maintenant, j'aimerais qu'on puisse prendre la Sainte Cène ensemble pour commencer cette année.